Et oui, bonjour, la communauté de Coup Critique, c'est encore moi, Pépé, et aujourd'hui, on va se parler de personnages non-joueurs. Suite à une publication Facebook qui demandait conseils sur la conception de PNJ, personnages non-joueurs, afin que ceux-ci puissent instaurer des sentiments ou des ressentis particuliers, j'ai décidé de plancher sur une vidéo qui aborderait le sujet. Les personnages non-joueurs. Comment les rendre intéressants? Comment leur instaurer un concept ou un profil particulier? Comment les rendre crédibles dans ce que la meneuse ou le meneur souhaite véhiculer via leur présence, c'est ce que nous allons vérifier ensemble. Il s'agit d'un gros dossier et on va prendre le temps de décortiquer le tout en plusieurs sections. Et on commence ainsi avec la méthode du X mais Y. Il s'agit d'une technique assez rapide et simple qui ne va pas nécessairement créer un personnage complexe sur le premier coup, mais ça permet de rapidement le concevoir et possiblement le faire grandir avec le temps. Ça va se jouer sous deux axes. Il y a le X, qui représente l'idée générale du personnage dans un aspect précis. C'est le cliché de celui-ci, ce qui paraît dans l'immédiat, ce qu'on voit, l'idée de base qu'on se fait du personnage non-joueur. Y, toutefois, est la particularité ou la partie qui se démarque de X, qui en fait vient un peu contredire sans pour autant l'annuler. Et cette manière de faire, bien, ça peut s'appliquer autant dans les particularités physiques, dans le comportement, dans le mental du personnage non-joueur. On va se donner un exemple comme ça. Un exemple physique pour commencer. L'homme que vous voyez, que vous apercevez devant vous, il marche tranquillement, il est maigre, il est pâle, il semble être aussi fragile qu'une brindille. Ça, c'est notre X. Mais vous reconnaissez dans son regard qu'il possède une volonté de fer qui lui permet de traverser mer et tempête sans broncher. Ça, c'est son Y. Les deux vont un peu se contredire. On a une impression et soudainement une deuxième impression. Mais ils ne vont pas nécessairement s'annuler. Ça montre une fausse, en quelque sorte, complexité, ou du moins, ça nous montre plusieurs couches au personnage, tout simplement dans son physique. Mais l'exemple aussi peut justement être attribué à un trait de personnalité ou à un compas moral. Comme par exemple, le chef de la garde de la ville est très efficace et demeure fidèle aux lois de la cité. Il va vraiment être super bon pour arrêter les criminels, maintenir le tout, mettre les gens en confiance. Mais il veut garder à lui seul tout le mérite des prouesses et des réussites de son équipe. C'est quelqu'un de très vantard qui va s'attribuer à lui seul les réussites. Ça montre une certaine complexité. Le personnage n'est pas méchant, il n'est pas un vilain, il ne va pas immédiatement vouloir être tuer tout le monde, et ce n'est pas non plus un preux paladin qui n'a aucun défaut, aucun pli. Il possède ses défauts, il possède ses capacités, il possède son X, mais également son Y. Et c'est juste cette petite façon de faire permet d'apporter rapidement une nuance à des personnages qui ne seront pas unidimensionnels au premier coup d'œil, parce qu'on s'entend, ça demeure très en surface. X, Y, c'est le point de départ d'un personnage, mais ce n'est pas sa totalité. Une fois que vous avez ces éléments visuels ou de motivation, ou du moins dans son comportement, vous pouvez ensuite vous demander pourquoi. Pourquoi le garde de la ville a ce type d'attitude-là? Pourquoi l'homme qu'on a vu, qui avait finalement une volonté de faire, malgré le fait qu'il semblait tout faible, agit de la sorte? Eh bien ça peut se construire avec le temps. On s'entend, pour des personnages non-joueurs, on ne peut pas rapidement créer une profondeur et que celle-ci soit visible aux yeux des personnages, aux yeux des gens autour de la table. La profondeur, bien, c'est le résultat d'un développement sur le long terme. C'est quelque chose qui se construit avec le temps et qui éventuellement va être dévoilé. Toutefois, il est possible de créer rapidement plusieurs personnages non-joueurs, des PNJ, qui vont être sur le X mais Y et qui vont être marquants et mémorables. Et à partir de là, une fois que vous en avez plusieurs qui sont affichés, vous pouvez voir dans le lot lesquels vont attirer l'attention, lesquels vont se retrouver au cœur des aventures des personnages non-joueurs, lesquels vont avoir le plus d'interactions, et c'est sur ceux-ci que vous allez pouvoir mettre l'emphase avec le temps. Vous pouvez également y aller avec la méthode des trois étapes. C'est une autre technique qui permet de créer des personnages non-joueurs rapidement et qui, comme son nom l'indique, se divise en trois étapes distinctes. Il y a l'étape 1, ce que les joueurs peuvent voir. À quoi est-ce que ressemble le personnage non-joueur? Ce qu'il fait au moment où il rencontre les personnages. L'étape 2, ce qu'il faut dépeindre, ce que le personnage non-joueur fait dans la vie, c'est quoi sa personnalité. Et étape 3, à quoi il sert? Pourquoi est-ce qu'il est là? Comment est-ce qu'il fait progresser l'histoire? Est-ce qu'il est accroché à l'aventure? Est-ce que c'est le grand méchant? Est-ce qu'au contraire, c'est le plus grand allié que les personnages ne vont jamais avoir? Pourquoi est-ce qu'on l'a créé? Et bien que ces trois éléments semblent très simples, juste ensemble, ça permet de construire un personnage non-joueur qui est, au premier coup d'œil et sur les premières lignes, complet et qu'on peut, par la suite, approfondir avec le temps. Commençons avec l'étape 1, ce que les personnages joueurs peuvent voir, ressentir lorsqu'ils aperçoivent le personnage non-joueur. Qu'est-ce qu'il dégage? Qu'est-ce qu'il fait? Et on peut définir le tout avec certaines informations de base qui se résument à un mot, chaque élément à considérer. Son âge, son genre, sa culture, son espèce, son occupation. C'est juste un mot. Ça prend 30 secondes à écrire. Cette première ébauche permet de définir une base qui est, disons, plus générique. C'est une base générique. Ce qu'on peut s'attendre, par exemple, d'un vieux gnome chasseur d'une tribu nomade. Une fois qu'on a bien défini la base, eh bien, on peut ainsi instaurer des détails qu'on peut voir de lui, mais qui détonnent de ce qui est la norme, de ce qu'il représente. Qu'est-ce qui dégage de plus que ce qu'il est de base? Je rappelle, c'est un vieux gnome chasseur d'une tribu nomade. Maintenant, ce qu'il détonne, il lui manque un œil, c'est déjà un élément. Il y a une grosse cicatrice, là. Il y a un œil qui est arraché. Il possède un gros serpent du désert de compagnie sur sa tête, qui est enroulé sur sa tête. Et il porte dans son dos un gros couteau qui a dû appartenir à une créature beaucoup plus grande que lui. Et voilà, ça m'a pris un gros maximum d'une minute à concevoir et j'ai pas encore trouvé d'explication au quoi, comment, pourquoi de ce qu'il affiche, mais c'est pas plus grave que ça pour l'instant. Et juste ça, je le trouve déjà mémorable, ce vieux gnome d'une tribu nomade avec un serpent enroulé autour de la tête qui a l'air un peu comme... Il manque un œil puis un gros couteau dans le dos. Deuxième étape, comment jouer le personnage non-joueur en soi? Quelle personnalité est-ce qu'on va donner au vieux gnome chasseur? Il y a plusieurs façons qui peuvent être utilisées. Il ne s'agit pas non plus d'une capsule en fait que je fais pour l'interpréter. Je ne vais pas parler de l'interprétation et du jeu d'acteur. Dans le contexte où ce n'est pas non plus tous les meneuses et meneurs qui sont à l'aise avec le fait d'interpréter des personnages, de le jouer de façon super théâtrale, je vais rester dans les outils pour, disons, offrir une profondeur, un intérêt envers le personnage non-joueur sans pour autant lui octroyer une voix ou un type de jeu spécifique. Et il y a plusieurs choses ainsi intéressantes qu'on peut faire, qu'on peut mentionner. Parmi lesquelles, par exemple, en rafale, un tic visuel. Il claque la langue, il tape du pied, un trait. Il est méfiant, il est suspicieux, une allégeance. Avec qui il travaille, vers qui il se tourne sur la loyauté. Bien, dans ce cas-ci, son clan. Ses motivations, ses rêves, ses objectifs. Il souhaite que son clan demeure fort et prospère. Jalousie ou peur, il a peur des esprits qui murmurent dans le désert la nuit. Et une intrigue secondaire, il aimerait beaucoup mettre à mort une bête légendaire qui vit dans le désert, centre d'intérêt, connaissances et expériences. Bien que ce soit un chasseur, il adore les jeux de stratégie comme les dames ou une forme différente des échecs, on va dire. Et secret, bien sûr, toujours intéressant, un secret, il est malade, il va éventuellement mourir d'un mal qui le ronge de l'intérieur. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de tout utiliser. Ce que je viens de mentionner pour chaque personnage non-joueur, mais 2-3 de ces éléments permettent d'ajouter une couche supplémentaire. On a ainsi des nouvelles informations qui permettent de définir notre personnage non-joueur, ce fameux vieux gnome du désert avec un serpent autour de la tête qui rêve de se battre contre une créature légendaire. Des informations que les personnages n'ont pas immédiatement accès, ils ne le savent pas, là, tout ce que je viens de dire et ce que j'ai inventé en dedans de 30 secondes, mais ils peuvent le découvrir à force de parler avec le vieux gnome. Et juste ça, ça donne une certaine profondeur, ça rajoute une nouvelle couche qui n'est pas encore super approfondie, mais qui permet d'offrir, selon moi, quelque chose qui est déjà mémorable et qui mérite en fait qu'on s'y attarde avec le temps. Troisième étape, la connexion du personnage non-joueur dans l'histoire. Pourquoi le PNJ est dans la vie des personnages? Pourquoi lui donner une certaine profondeur si ce n'est que pour le faire disparaître prochainement? On veut que ce dernier garde un certain intérêt dans l'histoire, et si on lui donne une profondeur, c'est parce qu'il a un rôle à jouer. Un rôle secondaire, on s'entend, ce n'est pas le personnage principal de l'aventure, mais tout de même un rôle. Pourquoi il est là? Dans l'exemple de ce fameux vieux gnome du désert d'une tribu nomade avec un serpent autour de la tête, ça peut être aussi simple que d'être le guide engagé par les personnages pour les faire traverser d'un point du désert jusqu'à la prochaine ville. Et juste en l'engageant, juste en, disons, utilisant le personnage non-joueur comme guide, on n'a pas besoin d'avoir convenu ou mis à l'écrit tout ce qui fut mentionné précédemment, tout ce que j'ai inventé en dedans de 30 secondes. Sa connexion avec les personnages est le point de départ. C'est « je suis là, je vais vous guider d'un point A à un point B » et on peut prendre le temps de développer, d'approfondir ce dernier, mais on a quand même un parachute de secours. On a quand même les informations en soi qui sont, certes, de surface. Je veux me battre contre une créature légendaire, je veux que ma tribu aille bien, j'ai un serpent autour de la tête. Mais tout ça, ça demeure que c'est quand même des informations qu'on peut éventuellement partager et approfondir. Et juste ça, je suis sûr et certain que ça peut faire la différence pour vous, j'en suis persuadé, si jamais c'est bien sûr le type d'outil que vous voulez mettre de l'avant. Le piège, par contre, de ce que je viens de vous présenter, que ce soit la méthode X, mais Y ou la technique en trois étapes, c'est qu'il ne s'agit pas d'une histoire racontée. Hein, on s'entend, c'est pas un roman que vous écrivez. C'est une aventure qui est vécue et partagée entre plusieurs individus. Le meneur ou la meneuse n'est pas l'unique décidant des chemins à prendre dans l'histoire. Ainsi, il est tout à fait possible qu'un personnage non-joueur n'accroche absolument pas au groupe. Mon personnage, mon gnome, là, ça se peut que genre, je le mette de l'avant. Je suis vraiment content à quoi il ressemble, mais que ça ne marche pas. Les personnages font juste comme « Eh! Pouah! » Je le pousse. C'est pourquoi les deux techniques présentées ici, ben, c'est pour du premier niveau. C'est une première couche pour, disons, créer rapidement quelque chose qui peut être intéressant sans qu'on y accorde trop d'importance pour le moment. Mais pour qu'éventuellement un personnage non-joueur puisse intéresser les personnages, il faut, selon moi, introduire des PNJ à presque chaque session. Un nouveau personnage, un nouveau PNJ à chaque session. Pourquoi? Eh bien, pour continuellement lancer des lignes à l'eau. Lancer des lignes aux personnages, des joueurs et des joueuses pour voir laquelle va accrocher. Et créer lentement mais sûrement une banque de PNJ dans laquelle vous pouvez piger. Éventuellement, ça va accrocher, mais ça ne va pas nécessairement accrocher sur celle que vous voulez. Et un nouveau personnage, un nouveau PNJ à chaque session, ça peut être aussi simple que « Allô, je suis Gary, le vendeur de pommes qui apprécie beaucoup porter des beaux chapeaux. » Juste ça. Il est là. Il existe. Il n'a pas besoin d'être plus que ça pour l'instant. Et vous, en tant que meneuse ou meneur, vous allez découvrir si Gary, qui est un drôle d'individu, est-ce qu'il va attirer des personnages? Si oui, OK. On peut commencer à penser plus en profondeur sur qui est Gary, ce qu'il fait. Est-ce que Gary, eh bien, est un grand méchant finalement? Sinon, si ça ne croche pas, eh bien, Gary ne cesse pas d'exister pour autant, mais il n'a pas besoin d'être plus approfondi non plus. Il est juste là. Vous devez lancer plusieurs lignes à l'eau, justement, avant de voir laquelle de ces lignes va mordre. Et j'ai vécu ça dans mes propres parties aussi. Des personnages non-joueurs que je considérais vraiment cool, qui ont été introduits rapidement et qui ont quitté l'aventure aussi rapidement, soit parce qu'ils sont morts, soit parce qu'ils sont tout simplement, ils ont été faire autre chose, ils ont d'autres objectifs. Je pense avoir introduit un personnage non-joueur à presque chaque partie de la campagne de Bélien qu'on a fait, la première campagne sur la chaîne, et j'ai maintenu ma poigne sur ceux et celles que je savais que ça allait marquer les personnages, comme par exemple Grimblanc. Pour ceux qui n'ont pas écouté la campagne, c'est un tricrine, une race qui ressemble à des grosses fourmis. Grimblanc n'était pas du tout important au début. Zéro open bar. Grimblanc, ça tenait sur une ligne, son concept. Et avec le temps, parce que les personnages se sont accrochés, on l'approfondit, je l'ai approfondi. J'ai rebondi sur des idées que les joueurs ont mentionnées de vive voix sans vraiment savoir si c'était la vérité ou non à propos de Grimblanc. Et ça a donné un personnage non-joueur mémorable qui est resté dans la partie jusqu'à la fin. Et au final, c'est à ça qu'ils servent, les personnages non-joueurs. Ils servent à faire avancer l'aventure qu'on vit ensemble. Et c'est ce qui conclut, en fait, cette première partie de créer des personnages non-joueurs mémorables. Et je voulais encore une fois scinder le tout en deux, puisque c'est justement, comme je l'ai mentionné au tout début, c'est un gros dossier et il y a beaucoup de choses à dire. Et dans la seconde partie, je vais plutôt aborder le concept des vilains. Comment créer un vilain mémorable? Et encore une fois, je ne vais pas non plus y aller avec créer un vilain qui est nécessairement intéressant et profond, avec un gros backstory, une grosse histoire, une origine complexe, sur le coup. Non, je vais rester focusé quand même sur des vilains. Le concept d'un vilain qui va rapidement accrocher au joueur. Un vilain qui va être mémorable sur le coup, dans l'immédiat, sans nécessairement y aller trop en profondeur, bien que ça soit pertinent avec le temps, mais je parle vraiment sur les premières impressions. Je serais curieux de savoir vos retours, vos avis, vos commentaires, comment est-ce que vous avez trouvé ça, est-ce que c'était intéressant, est-ce que c'était pertinent, est-ce que vous avez appris des choses, est-ce que vous allez le mettre en pratique. Dites-moi tout. Si ce n'est pas fait, un petit commentaire, un petit abonnement, pouce vers le haut. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.